Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Alexandre Dang. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, trois Alexandre, forcément. Non, Marie-Josée Sirache, Jean-Christophe Brianchon, Thomas Corlin. Marie-Josée se demande de quoi je parle. Il y a deux Alexandres derrière la vitre, Marie-Josée.
Excusez-moi.
Mais voilà, vous n'écoutez pas. On va parler de quoi, Marie-Josée? Vous le savez, la fin de l'Homme Rouge. Heptaméron, Transmesenia et du festival Antigène. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Chagall, du noir et blanc à la couleur. C'est à voir à l'hôtel de Caumont, Aix-en-Provence, jusqu'au 24 mars. Nous ouvrons cette dispute avec la fin de l'Homme Rouge. En ce moment, l'affiche des Gémeaux, scène nationale de Sceaux, avant de poursuivre sa vie en tournée. Il y a d'abord un livre immense, intense, hors norme, qui est le fruit du recueil de centaines de témoignages dans l'ex-Union soviétique entre 1991 et 2012. C'est la technique habituelle de cet auteur, Svetlana Alexeyevitch. Parler encore avec des gens, les laisser se raconter. Puis avec cette matière, elle réussit le prodige de faire des livres, une forme de littérature évidemment chorale, orale, mais qui donne l'impression qu'on recueille nous-mêmes les paroles de ces centaines de témoins. On a plusieurs fois parlé ici de Svetlana Alexeyevitch et notamment de la fin de l'Homme Rouge. On ne peut vous donner qu'un conseil, c'est de le lire. Pour une fois, on va dire que le jury Nobel de littérature ne s'y est pas trompé. Il se trompe quelquefois, pas toujours. En tout cas, il a décerné son prix à la Russe en 2015. Il était bien sûr tentant de s'emparer de cette grande fresque de l'après-communisme pour renouer avec l'oralité sur le plateau de théâtre. Mais c'est aussi très compliqué, peut-être. En tout cas, c'est un défi qu'a relevé Emmanuel Merieux, qu'on sait capable de réussir bien des prodiges.
Maintenant, les magasins sont remplis de saucissons, mais il n'y a pas de gens heureux. Je ne vois plus personne avec une lueur au fond des yeux. À notre époque, nous, on avait les samedis rouges. Même en hiver, on était affarmés, on chargeait du charbon à la gare, du bois. On poussait nos brouettes pour reconstruire le pays. Ma femme avait un manteau léger. Elle était enceinte. Une jeune qui travaillait avec nous, une inconnue, lui a dit « Mais dis donc, c'est ton manteau d'été, t'as rien de plus chaud ?»« Tu sais, j'en ai deux. J'en ai un et on m'en a donné un neuf. Donne-moi ton adresse, je t'en apporte un ce soir. » Et le soir, elle nous l'a apporté. Pas le vieux, le neuf. Elle nous connaissait même pas, on était au parti, elle aussi, et ça suffisait. Dans notre immeuble, il y avait une jeune fille qui était aveugle de naissance. Ah, ouais, elle ne pouvait pas nous être d'un grand secours pour les samedis rouges, mais elle voulait absolument être avec nous. Elle voulait juste nous accompagner pour chanter le chant révolutionnaire avec nous. Nous détruirons le vieux monde d'avant, jusque dans ses fondements, pour construire un monde nouveau. Qui n'était rien, deviendra tout.
Voilà, on aura reconnu dans cet extrait, sans doute, la voix, la belle, profonde voix d'André Wilms, l'un des nombreux interprètes de cette fin de l'Homme Rouge. Tiens, Jean-Christophe Brianchon. On a assisté à la même représentation.
Effectivement.
Vous allez pouvoir me rappeler ce qu'on voit quand on arrive dans la salle des Gémeaux.
Alors ce qu'on voit, et ce par quoi d'ailleurs au départ je n'ai pas été tout à fait convaincu, c'est un grand désastre. C'est une scène recouverte de décombres et d'éléments de décor détruits, on va dire. C'est donc une scénographie assez finalement naturaliste, ou en tout cas, oui, qui s'approche du réel, en tout cas. Et puis, successivement sur scène, vont arriver et vont venir témoigner plusieurs personnages qui tous à leur tour, vont venir nous raconter non seulement leur façon d'avoir vécu l'URSS telle qu'ils en faisaient partie, mais aussi, et c'est là qu'à mon avis, non seulement le texte, mais en plus, c'est ce que nous propose Emmanuel Mérieux est intéressant, au-delà de ce vécu, ils vont nous raconter ce qu'a été a posteriori cette URSS pour eux. Et de là, au-delà du témoignage, de la sécheresse du témoignage sur laquelle Emmanuel Mérieux insiste, puisque ils ne viennent que successivement, individuellement, se présenter
des monologues,
à nous, ce sont des longs monologues successifs, eh bien, au-delà de cette histoire vécue et de l'enfer vécu, ils vont nous amener plus à considérer cette URSS et cette histoire comme, d'une certaine manière, en fait, une sorte d'histoire d'amour déçu. En fait, et c'est là que c'est très touchant, puisque plus que de nous dire que c'était l'enfer, les goulags étaient l'enfer, ce que a priori nous avons tous fini par comprendre le temps faisant, ils viennent nous dire que malgré tout, cette idée fut belle et que malgré tout, malgré la mort, malgré les tristesses, la mort d'un enfant pour certains d'entre eux, la mort de parents pour d'autres, et bien malgré tout cette idée fut belle et cette idée ils continuent finalement d'une certaine manière à y croire, en tout cas ils continuent d'une certaine manière à croire que cette idée a pu être belle et pourrait encore aujourd'hui être belle. Et de ce point de vue là, ça transforme ce témoignage sec, cette pièce de théâtre qui a priori n'en était pas une, en tout cas ce texte qui de toute façon avait rien de théâtral, en quelque chose de beaucoup plus théâtral parce que dramaturgique et parce que écrit, parce que présenté de telle manière que ce que nous finissons par voir, c'est bien plus que l'histoire un petit peu édifiante d'un peuple, mais en tout cas l'histoire d'individualités qui ont parcouru un monde, et ce qui a priori fait l'essence même du théâtre. Donc ça rend théâtral un texte qui n'était pas. De ce point de vue-là, c'est absolument remarquable. Mais d'autres points de vue aussi encore.
Alors, on n'a pas tout à fait fini de dire ce qu'on voit, parce que vous avez dit, on peut imaginer que c'est une ancienne salle de spectacle, mais au sens maison des jeunes,
ou de
quoi,
conférence, parce que, peut-être.
Ou de conférence, parce qu'il y a des escaliers qui montent sur quand même une petite estrade, et derrière un souvenir, on va dire, d'écran peut-être, sur lequel on pouvait faire de vraies projections, et là où ça se passe également, puisqu'il y a toute une série d'images qui vont être projetées, images fixes ou images animées, y compris l'image par moment des comédiens qui sont en scène, un très très gros plan, et puis il y a tout un travail aussi sonore, Thomas Corlin.
Justement, la stylisation, même si j'ai plutôt apprécié la pièce, je ne sais pas ce que révèle ce lapsus. C'est la stylisation assez spectaculaire qui m'a dérangé, c'est peut-être le seul aspect qui m'est vraiment dérangé dans la pièce, parce que donc il fallait bien évidemment accompagner chaque monologue par visuellement, et puis aussi
pourquoi bien évidemment.
C'est quand même des monologues qui sont très longs, qui sont également généralement exécutés sur un ton assez souffreteux. Et
comme vous y allez.
Enfin, souffreteux.
Définition de souffreteux chez Thomas Corlin.
En tout cas, c'est une espèce de petit ton un peu comme ça, assez plaintif pendant tout le long de la pièce. Les trois ou quatre premiers monologues sont un peu là-dessus. Je trouve que ça varie un peu sur la fin. Et malheureusement, cette stylisation, elle souligne énormément les émotions de manière un peu vulgaire, je trouve. Ça fait un petit peu reconstitution historique télévisuelle de temps en temps, par rapport aux choix musicaux aussi qui vraiment accompagnent les choses. Puis à ces moments aussi. Donc il y a toute cette grandiloquence, par exemple quand on est censé parler de pression, d'oppression psychologique, alors là immédiatement ils nous mettent des stroboscopes, et puis également on a les feuilles d'arbres aussi, et puis la pluie lorsqu'il s'agit de parler d'une rescapée du goulag. Néanmoins, puis aussi, il y a quand même une dernière chose aussi qui m'avait étonné, c'est des effets assez cocasses, c'est-à-dire que bon, à un moment on a cette pièce de Bach qu'on retrouve dans Hécatombe, la passion de selon saint Matthieu, qui donc passe pendant qu'on est un jeune qui est en train de nous décrire en fait donc l'arrivée du mode de vie capitaliste. En tout cas, moi j'ai trouvé la pièce très forte mais presque un peu dérangeante. Alors finalement, cette forme là, comme ça vient d'être dit, c'était pas gagné quand même de donner quelque chose de théâtral avec un matériau pareil. Donc c'est une forme assez radicale, puisque tout de même c'est des monologues assez longs et assez obsédants. Mais c'est très efficace, parce que donc forcément ça relate ce vécu qui est dur et assez ahurissant à plus d'un titre, et puis les comédiens incarnent le truc dans le détail près. Mais par contre, je me suis un peu posé la question de, enfin, on a vraiment une vision cauchemardesque, et c'est vraiment, on insiste sur cette vision cauchemardesque là. Et même si ce qui est très intéressant, c'est de partir de l'individuel pour aller dans le collectif, pour se rendre compte de toutes les implications qu'un régime politique peut avoir, même psychologiquement, je ne sais pas, je comprends pas pourquoi est-ce que ce spectacle m'a autant poigné, enfin plutôt plombé, plutôt et même j'ai toi non, plutôt poignant au contraire. C'est-à-dire que bien Emmanuel Mérieux se défend totalement de faire ni un spectacle ni communiste ni pro ou anti-communiste, mais les parallèles et la mise en perspective sont un petit peu rapides à la fin, je trouve.
Marie-Jo des Sirache, la fin de l'homme rouge.
Comment dire? Non, moi je suis sortie bouleversée, j'en suis encore bouleversée de ce spectacle. Je l'ai vu hier après-midi. C'est une vision, je rebondirai sur vos propos, Thomas, une vision cauchemardesque, oui et non. Je trouve qu'elle est plus que ça. Ça raconte quoi? Ça raconte la fin d'une utopie, la trahison, un idéal dévoyé. Mais ça raconte autre chose. Ça raconte vraiment la foi dans quelque chose. Donc il y a cette question de la croyance qui est sans cesse remise sur le tapis. À partir de cette voix, cet personnage que Mérieux a choisi sur la centaine qui sont dans le livre. Et je trouve que entre le travail patient, parce qu'elle a mis plus de 20 ans à l'écrire, hein, ce bouquin, ce livre, Svetlana Alexievitch. Et donc, ça dit toute l'écoute, toute l'attention, cette capacité qu'elle a eue de faire accoucher des histoires intimes, extrêmement profondes, ancrées, des histoires qu'on a niées, qu'on a été dans le déni. On défilait les jours de fête officielle en sachant que votre femme avait été dénoncée par le voisin pour n'importe quel prétexte politique. En réalité, c'est parce qu'il était amoureux de votre femme. Donc, voilà, tout ce qu'a pu permettre le système stalinien qui a détruit des hommes de l'intérieur. Et en même temps, comment on cohabitait ensemble ce sentiment de souffrance et en même temps ce sentiment d'idéal et donc d'espoir permanent pour un monde meilleur, pour le paradis, il est ici et pas ailleurs. Enfin, et je trouve que les choix et les coupes qu'a réalisé Emmanuel Mérieux, cette façon de procéder, avait fait un petit peu pareil avec Des beaux lendemains de Russell Banks. Ça donne à entendre à l'intimité la plus profonde et la plus fragile, parce qu'il y a de la fragilité dans ces voix-là. C'est pour ça, c'est pas souffreteux, je trouve que c'est fragile. C'est la première fois qu'ils se livrent, qu'on leur accorde une attention. Et entre le moment où ils parlent, 20 ans se sont écoulés après la chute de l'URSS. Donc, pour eux, on leur a jamais accordé la moindre attention à ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont grandi, ils ont vécu, ils ont eu des enfants, ils ont été heureux, ils ont été malheureux. Et tout d'un coup, un jour, tout s'arrête. Et cette rupture-là, mais comment on se remet de quelque chose d'aussi violent? Et sa mise en scène, moi je trouve ça très beau, ce décor. On sent que c'est comme s'il y avait une immense toile d'araignée invisible, le temps s'est arrêté à cet endroit-là, et que chaque personnage, chaque voix vient percer. Ils auraient pu être juste prisonniers de cette toile, et non, ils viennent la percer. Leur voix raconte des histoires extraordinaires, c'est-à-dire ce sont des gens ordinaires qui ont un vécu extraordinaire. Et ça, c'est très très beau.
Alors, le problème pour moi, c'est de savoir ce que le théâtre apporte de plus par rapport au livre. Et je crois que ça, en l'occurrence, je ne crois pas que ça apporte grand-chose de plus au livre. Alors, et donc la question c'est, est-ce que ce spectacle s'adresse aux gens qui n'ont pas lu Svetlana Alexievitch pour leur donner envie de le lire? Et là, je dis bravo à ce spectacle, parce que c'est quand même forcément moins que le livre, parce que d'abord il y a un choix, mais c'est vraiment un infime prélèvement dans un livre qui est quand même un livre énorme, qui charrie des centaines de témoignages et de voix. Enfin, c'est vraiment un travail vraiment d'écriture absolument admirable, je le redis ici, parce que la distribution, enfin tous les sept interprètes sont quand même globalement très bien. Moi, je suis aussi quand même, j'ai beaucoup de réticences sur le travail visuel très illustratif, souvent l'archive qui va avec ce qu'on est en train de dire, ou effectivement l'image un peu trop signifiante. Pareil pour la musique et la redondance de certains effets. Je suis pas fou de l'image en gros plan des comédiens reprojetés derrière eux en noir et blanc. Je vois pas bien ce que ça donne, et le travail sonore aussi c'est intéressant. Mais je vais vous poser la question très simplement. Mais lors du long monologue de Jérôme Kercher, moi je comprenais je sais pas, peut-être 50% de ce qu'il disait, au sens vraiment où je ne comprenais pas, et je voyais tous les gens autour de moi dans la salle se dire, mais tu comprends, t'entends quelque chose de... Parce que là, il y a un travail particulier qui est fait sur son monologue, parce que ça va aller crescendo, et après il y a les effets sonores. Non plus finir sur un rugissement, ça me semble pas d'une finesse absolue. Mais donc j'espère que c'est... Alors vous l'avez vu hier, Est-ce que vous avez entendu ce que disait Jérôme Kircher?
Je pense que c'est un petit peu ce que j'appelle comme souffreteux parfois sur les premiers monologues, je pense. Et effectivement, il y a tellement d'effets sonores au bout d'un moment sur les troisièmes et quatrièmes qui donc décrivent des situations de pression psychologique très forte et un peu de brainwashing presque. Mais effectivement, quand on se pose la question de qu'est-ce que le théâtre peut apporter au texte, c'est finalement sur le dernier monologue, donc celui d'André Wilms, où toutes ces nuances dont on a parlé à l'instant, et aussi cette histoire d'histoire d'amour en fait qu'ils ont eu avec le régime communiste, apparaît vraiment et on ressent les contradictions qu'il peut y avoir dans le texte. Mais en dehors de ça,
là il faut dire que bon, c'est pas du tout faire offense aux autres qui sont d'excellents comédiens, mais finir avec André Wilms, il vaut mieux, parce que alors là, il y a une telle puissance, enfin, il ouvre la bouche, on est quand même par terre, tellement c'est un immense interprète qu'il a une sorte de physicalité folle, Jean-Christophe Briançon.
D'accord, mais on n'en finira jamais de dire que ce comédien est un de nos plus grands comédiens, c'est absolument certain. Après, pour ce qui est de la forme et de ce que le théâtre peut apporter à ce texte-là, alors ça va peut-être jouer en la défaveur de cette pièce que j'ai beaucoup aimée, mais finalement, je pense que je ne sais pas si les médiums sont utilisés de la meilleure des façons pour amener ce texte sur un plateau, mais en tout cas, toute la pièce durant, je me suis dit qu'Emmanuel Mérieux agissait un petit peu comme un chef d'orchestre pourrait agir à l'opéra, ou comme un compositeur face à sa partition. Il parvenait quand même constamment à toujours jouer avec son médium, avec ses médiums, pour parvenir toujours à essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'il y arrive? Certainement de manière un petit peu inégale, et effectivement de temps en temps les effets apportent une affectation qui n'est pas toujours la bienvenue, mais en tout cas je vois en lui un metteur en scène et un homme de théâtre qui à coup sûr ici sait jouer de ces médiums.
Bien
et
sûr,
contrairement à ce que à ce que vous avez pu dire, moi j'ai plutôt apprécié le travail visuel, en l'occurrence cet entremêlement des archives avec des images live, des visages donc en gros plan effectivement projetés sur le fond de scène. Je trouve que la surimpression de ces archives avec ces visages justement rendait la chose un petit peu moins évidente qu'elle ne l'était de prime abord. On n'était pas seulement face à une archive ou face à leur visage, comme peut le faire par exemple ces visages en gros plan que fait très bien Varlikovski, entre autres, Denis Guéguin pour Varlikovski. Là, on se retrouve face à la même chose, mais complexifié par la surimposition et par la surimpression des images. Et le travail sonore aussi, qui, pareil, de la même façon, apporte peut-être une affectation pas toujours heureuse, mais est toujours, en tout cas, toujours présent, toujours là, toujours travaillé. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, cet homme fait un vrai travail de théâtre.
Ah oui, je vous rejoins absolument. Je vois pas qu'on se méprenne sur mes propos. Je trouve que ce formidable travail donne des résultats qui sont, voilà, selon le moment du spectacle, pour moi, pas toujours absolument juste. Mais parce que quand Thomas Corlin tout à l'heure disait, bien évidemment, comment habiller ce texte-là, on peut aussi l'imaginer absolument nu, avec des comédiens, face publique, pas de décor. Enfin,
on en parlera avec Didier Ruiz. Oui.
On va en parler. Enfin, ouais, c'est encore autre chose. Ça, c'est la parole portée par eux-mêmes. Hein. On se donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour ça. Dernier mot sur La fin de l'homme rouge, Marie-Josée Sirache.
Non, moi, je trouve que tout fonctionne quand même. Je trouve un peu sévère parce que le travail du son, d'abord, tout le travail autour des voix, la façon dont elles sont amplifiées ou pas, dont elles résonnent, comme si elles venaient d'outre-tombe parfois, ou parfois elles sont très, très présentes, très, presque virtuelles. On sait même plus si c'est, si elle est enregistrée, la voix, je trouve que tout ça fonctionne. Les images projetées, donc il y a les visages des acteurs qu'on devine plus ou moins, qui est pas gênant parce que finalement on regarde et puis on sera et ça ne détourne pas l'attention du regard qu'on porte sur l'acteur qui est devant nous, et toutes les images qui peuvent être projetées, pour moi elles ne viennent pas illustrer, au contraire elles viennent nous rappeler que ça existait, enfin, parce que ça fait corps avec le livre, c'est-à-dire que ce sont des témoignages. Il y a ce côté-là.
Quand on parle d'ouverture du McDo et qu'on voit les images de l'ouverture du McDo, ça s'appelle une illustration.
Mais oui, on a oublié.
Non, mais c'est pas.
Non, mais Oui, oui, d'accord, c'est illustre.
Quand on parle
mais...
des statues qu'on déboulonne et qu'on voit des statues déboulonnées.
Ce sont des images qu'on avait oubliées. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va n'importe où en Russie, il y a des McDo partout. Puis...
Non, non, mais bien sûr.
Mais ce que ça avait représenté après le discours de Gorbatchev, tout d'un coup, le summum de l'ouverture, de la chute du communisme, c'est l'inauguration d'un McDonald's, Place Rouge, c'est quand même incroyable. Mais ce qui est, mais pardon, pour en revenir au texte, ce qui est quand même très beau, c'est qu'en permanence, chez tous ces gens-là, il y a l'importance du livre et de la littérature. Et je crois que c'est Anouk Rimbert dans le premier témoignage où elle dit la vraie vie était dans les livres. Et c'est ça qui a nourri en permanence aussi leur imaginaire à pouvoir continuer de vivre dans les conditions que l'on sait. Et ça, c'est très très fort, je trouve. Ce choix-là, qui revient sans cesse comme un fil, peut-être il est là le fil conducteur du spectacle.
Dernier mot, tout dernier. Plusieurs
choses me donnent envie de réagir, mais pour ce qui est des images, en tout cas, je trouve que le fait qu'elles illustrent est indéniable, mais en tout cas, il s'agit d'archives, et je pense que c'est important qu'il s'agisse d'archives et pas d'images. On nous montre pas le McDo de la Place Rouge aujourd'hui.
Mais ça
ancre le témoignage dans une, enfin, on va dire dans une forme de mélancolie par l'historicisation qui n'est pas tout à fait anodine. C'est pas simplement pour
montrer. Vous allez faire croire que j'ai pas aimé spectacle. Je sais pas parce que j'ai aimé les critiques que je ne l'ai pas aimé.
C'est important quand même. Et effectivement, après la présence de la littérature et de Tchekhov en particulier, moi, m'a beaucoup touché et ça m'a fait penser à une mise en scène à la mise en scène d'Ostermeyer de La Mouette qui avait débuté par l'incipit de La Mouette justement qui parle de l'enfer de Sakhaline. Et je trouve que c'est effectivement très bienvenu de réussir à nous montrer à quel point toujours l'enfer a aussi bien été réel que romancé.
C'est tellement beau cette phrase que vous venez de prononcer. Jean-Christophe Briançon, qu'on s'arrête là-dessus. Concernant la fin de L'Homme Rouge, d'après Svetlana Alexeyevitch, sa adaptation mise en scène d'Emmanuel Merieux, à se voir au Théâtre des Gémeaux à Sceaux jusqu'au 17 février. Ensuite, vous pourrez aller le 19 février à Vélizy, le 26 février à Istres, le 8 mars au Rayon Vert de Saint-Valery-en-Caux, le 15 mars à l'Arc, c'est au Creusot, 19 mars, l'espace Diamant d'Ajaccio, et puis une reprise la saison prochaine, donc du 12 septembre au 2 octobre, au Bouffe du Nord à Paris. À suivre dans la dispute Heptameron, Trans et Festival Antigel.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute, spectacle vivant avec la nouvelle création du metteur en scène Benjamin Lazare, ici associé à Geoffroy Jourdain, qui assure la direction de la création musicale de Heptameron, avec son ensemble L'Écrit de Paris. Heptameron, récit de la chambre obscure, a été créé à la Maison de la Culture d'Amiens au mois de janvier, actuellement à l'affiche des Bouffes du Nord à Paris, avant de poursuivre là aussi sa vie en tournée, un spectacle hybride, né de L'Heptameron, de Marguerite de Navarre, un ensemble de récits écrits au XVIe siècle, deux récits très contemporains, ceux-là recueillis par les acteurs eux-mêmes, et puis des madrigaux de Marigno, Monteverdi et Gesualdo. On écoute un extrait de la répétition générale.
Quand elle se fut enfermée en sa chambre avec cette tête, elle pleura tant qu'elle la lava de toutes ses larmes, la baisant mille fois par tous les endroits. Devint très beau et fort odoriférant. et continuant la fille de faire toujours ainsi. Elle fut plusieurs fois aperçue de ses voisins, lesquels, voyant que les frères d'elle s'émerveillaient de sa beauté perdue et de ce qui lui semblait que les yeux lui fussent fuis de la tête, leur dirent:
nous nous sommes aperçus qu'elle fait autre chose tous les jours que pleurer auprès de ce basilic.
Se coyant, les frères lui dérobèrent secrètement cette poterie, laquelle elle demanda plusieurs fois avec très grande instance, et pleura tant qu'elle devint malade, ne demandant autre chose durant toute sa maladie.
Merci, merci.
Voilà pour cet extrait d'Heptaméron, récit de la chambre obscure, création de Benjamin Lazare à la mise en scène et Geoffroy Jourdain, direction et création musicale. Et c'est Thomas Corlin qui commence à nous en parler.
Ben, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un plaisir très raffiné, éblouissant pour le coup dans sa stylisation, en tout cas plus en termes de stylisation visuelle et sonore que le précédent spectacle dont on a parlé.
Qu'est-ce qu'on voit dans ce magnifique écrin? Moi, je veux savoir déjà ce qu'on voit, de quoi ça parle, comment c'est construit.
Justement, c'est clairement la scénographie qui m'a le plus impressionné, pour le coup. C'est-à-dire qu'on est... il me semble que cette elle s'est lignée par quelqu'un qui s'appelle Amélie Adeline Caron, pardon. C'est une sorte de cabinet des curiosités qui fait un petit peu référence à toutes les merveilles, les inventions et les mystères de la Renaissance. Ça donne beaucoup de relief à la pièce et aussi au développement des personnages. C'est très vivant, très intrigant, même à regarder visuellement. Tout est très vivant là-dedans. Apparemment, c'est donc basé sur une gravure de Dürer, qui est donc la Mélancolie, dont on retrouve deux fois cette forme étrange qui est le polyèdre. On voit aussi un carré de végétation, c'est percé de trappes, de tréteaux. Et ça multiplie donc les positions des comédiens. Alors ça complexifie un peu parfois, mais ça donne lieu à plein de configurations différentes. Et ça donne l'impression qu'en fait les histoires sont pliées et dépliées, et d'être à l'intérieur d'une grande machine à raconter. Et ça donne un lien assez énigmatique à ce collage de textes. Alors assez énigmatique parce que j'aurais du mal à dégager un éventuel propos global du spectacle, de ces thématiques, en dehors donc des histoires elles-mêmes qui sont... Donc il y a 5 histoires de l'Heptaméron, quelques sonnets de Shakespeare qui sont un petit peu évoqués à certains moments. On a également une histoire du Décaméron de Boccace. Et on a encore un autre texte de Brantôme également. Donc ça touche un petit peu à certaines choses à un moment. Donc on a aussi les textes qui sont modernes, donc écrits par Benjamin Lazare ou par certains des comédiens. Et également Geoffrey Carré qui joue un petit peu ce décalage entre l'époque et aujourd'hui. Mais donc on prend un peu, on saute d'une chose à l'autre, je dirais, on joue de loin parfois avec la fiction, avec la frontière entre la fiction et le réel, puisqu'apparemment l'Heptaméron se positionnait comme des histoires véritables. À un moment aussi, on évoque un petit peu cette question de la fonction et de la valeur d'une image, mais il n'y a rien qui ressort particulièrement de tout ça, et donc on se laisse un petit peu aller à la beauté, finalement, de ce spectacle qui est clairement très très réussi.
Marie-Josée Sirache, avant de revenir vers vous, Thomas, parce que les histoires, pour bien comprendre, moi qui n'ai pas vu ce spectacle, j'ai oublié de le préciser, c'est pour ça que je pose des questions très, très simples, mais c'est celles qu'on doit poser chaque soir. Il y a quand même une trame narrative où chaque récit chasse l'autre.
Chaque récit est indépendant l'un de l'autre.
Sans thématique.
Si, enfin, moi je l'ai entendu, tous évoquent l'amour courtois, me semble-t-il. C'est-à-dire que c'est comme si on avait face à nous des trouvères ou troubadours, donc une narratrice en l'occurrence principale qui systématiquement introduit l'histoire, et puis les musiciens prennent le relais, les chanteurs, et donc voilà. Les chanteurs plutôt. Donc c'est un amour courtois qui ne se révèle pas si courtois que ça, quand même. Il y a une ou deux histoires assez violentes où la femme est violentée, ce qui est plutôt surprenant. Donc je pense que c'est peut-être les textes écrits plus contemporains. Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver les détails.
Il y en a des comme ça dans l'Heptaméron.
Alors, ouais, d'accord.
L'histoire violente.
Oui, bon, c'est peut-être ça, alors. Donc, on est en même temps entre le rêve, des légendes, et le conte. Il y a un côté féerique. Ça marche un certain temps. Et, de mon point de vue, il y a deux histoires en trop, à la fin. C'est-à-dire que je crois que le spectacle dure 1h40. Il aurait duré 1h10. Ça aurait été impeccable. C'est-à-dire que, d'ailleurs...
C'est quoi, une forme de lassitude ou un manque d'intérêt renouvelé?
Finalement, parce que c'est exactement la même mécanique. Mmh. Donc, c'est toujours la narratrice qui présente. Et puis, bon, donc, au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant. La scéno, moi, je l'ai trouvé un petit peu laborieuse, pour le coup. J'ai l'impression que c'était des tombes qui s'ouvraient. Chaque fois j'étais là enfin je tremblais pas, mais je me disais pourvu qu'il ne se casse pas la binette en marchant sur les planches qui étaient ouvertes comme ça. Je sais pas pourquoi tout d'un coup on a mis cette espèce de labyrinthe en bois par terre où les chanteurs étaient en déséquilibre permanent. Bon peut-être ça fait joli, je n'ai pas été très convaincue par ce bois, d'ailleurs même pas vieilli, un peu neuf, un côté Ikea un peu cheap, qui contraste avec les murs quand même des Bouffes du Nord.
Jean-Christophe Brianchon, votre premier regard sur ce spectacle, l'Heptaméron.
Bah alors, il y a beaucoup de choses à en dire et beaucoup d'éléments sur lesquels je pourrais rebondir que vous avez tous les deux pu évoquer. Moi, de prime abord, déjà, j'ai effectivement pas été forcément convaincu. Alors ça va être bizarre de dire ça sur un texte du XVIe siècle, mais c'est vrai que ce texte-là, en tout cas moi personnellement, les éléments qui constituent ce texte, les différentes histoires qui constituent ce texte, ne m'ont pas nécessairement transporté. Mais c'est là aussi que je trouve cette pièce particulièrement intéressante, c'est que, de fait pour moi cette pièce n'a du coup plus été rien d'autre qu'un geste de metteur en scène, un geste de théâtre à proprement parler, et en l'occurrence un geste de théâtre particulièrement réussi, parce que de ce texte qui ne me parlait pas réellement, par le biais de sa scénographie et de sa dramaturgie, il a réussi à m'amener réellement quelque part. Cette scénographie, moi j'y ai vu comme Marie-Jo, j'y ai vu effectivement des sortes de tombes. Faut dire aussi que le plateau est incliné, il est pas droit, le plateau est incliné avec ces trous qui s'ouvrent et se ferment sur la dalle de bois qui a priori nous invite à venir assister au glissement des hommes qui seront de toute façon sur cette scène sur laquelle ils ne pourront pas tenir, et sur cette scène au milieu de laquelle ils pourront effectivement tomber au cours de leur vie. Donc c'est a priori un geste qui m'a parlé, une sorte de mélancolie qui me parle et que la dramaturgie vient en plus renforcer, puisque Benjamin Lazare a coupé les débats qui suivent les histoires, qui normalement entrecoupent les histoires pour les remplacer donc par les madrigaux italiens, ce qui nous permet réellement à proprement parler de rentrer dans une sentimentalité et dans le conte, dans une sorte de veillée, plus que réellement dans des histoires vécues telles qu'elles ont manifestement voulu être écrite, justement. Donc, à partir de là, on se retrouve, nous, en tant que spectateurs, invités à une sorte de voyage sur une mer d'huile, comme ça, en pleine nuit, qui va durer assez longtemps pour voir ces âmes...
Trop longtemps ou pas, pour vous ?
Durer assez longtemps, effectivement. Mais c'est un temps dans lequel on entre ou pas, mais on peut pas... fonction de la condition, de notre condition personnelle du soir, on parviendra à rentrer dans cette longueur ou non. Et ça, ce n'est pas nécessairement dû à la qualité de la proposition, c'est aussi dû à son état donné... du moment.
Thomas Corlin.
Alors, je suis tout à fait d'accord, justement, ce qui vient d'être dit, c'est vraiment le geste de metteur en scène qui fait sens, parce que même si on peut tout à fait apprécier les textes qui, en fait, finalement, parlent de passion violente, des tourments du cœur, il y a quelque chose de plus qui se passe, on n'est plus spécialement là pour les textes. J'ai même envie de dire, finalement, et c'est bizarre, c'est surtout les derniers textes que j'ai surtout écoutés. Ça m'est venu à ce moment-là, il y avait trop d'éléments sur scène, trop de signes, trop de mouvements, qui faisaient que le texte, pour moi, était presque une sorte de fond, ce qui est un peu paradoxal. Par contre, il y a une ou deux choses aussi, enfin, d'abord, il y a une chose qui est essentiel, et ça nous ramène un petit peu au précédent spectacle qui était au Bouffes du Nord, donc celui de Samuel Hachache, Songs. C'est un petit peu toujours le cas au Bouffes du Nord, mais il y a vraiment ce jeu, mais d'une agilité, d'une vraiment mais totalement hypnotique entre de l'enchevêtrement entre les madrigaux et les textes, qui n'est pas du tout gratuit pour le coup, qui n'est pas trop littéral, qui l'est un peu de temps en temps, et qui donne quelque chose qui porte pendant tout le long du spectacle. Et pour le coup, c'est vraiment un plaisir presque, j'ai envie de dire, charnel, plus qu'intellectuel. Par contre, il y a deux, trois petites nuances que je ferai. Ils ont voulu faire des connexions avec l'époque contemporaine. Alors, quand c'est un petit peu ce bois, un petit peu cheap à Ikea, pour le coup, je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Ça rajoutait une froideur qui cassait donc le fameux décorum des Bouffes du Nord. Mais ils ont tenté, il y a l'utilisation de la vidéo. Je me l'explique pas vraiment. C'est très beau, hein, encore une fois. Mais alors, on a
une réaction immédiate.
J'aurais une explication, mais mon explication, c'est qu'en fait, donc, on voit surtout des catastrophes naturelles, et donc, dans la situation de l'Heptaméron, en fait, ce sont des gens qui sont enfermés, qui ne peuvent pas bouger parce qu'ils ont justement,
il pleut,
etc. Donc il y a ça, mais on dirait aussi qu'il y a une sorte de connexion entre les tourments du cœur et les tourments extérieurs. Enfin, c'est un peu bizarre.
Là, oui, mais alors,
pour pour moi, c'est juste, c'est finalement assez simple. Faut pas chercher, à mon sens, trop à l'intellectualiser. C'est que finalement, en ouvrant et en fermant la pièce sur ces images de catastrophes naturelles, on ancre là aussi le geste de mise en scène dans un geste purement mélancolique qui nous inscrit dans une tristesse qui, a priori, sera de toute façon indépassable, puisque les hommes sont de toute façon entourés de cette tristesse qu'ils ne pourront jamais éviter, sauf en la, éventuellement, en la magnifiant par eux-mêmes ou par le biais de l'art, ce que fait Benjamin Lazare.
Thomas Corlin.
Oui, moi je finirais aussi sur un autre détail, c'est qu'ils ont voulu créer un petit décalage humoristique aussi qui est à moitié réussi, c'est-à-dire qu'on a vraiment, il faut pas oublier qu'ils essaient beaucoup de jouer donc sur la notion de réalité, des récits, mm-hmm. et puis des différents degrés de lecture qu'on puisse en avoir, et donc il y a ce comédien qui est truculent, qui est donc Geoffrey Carey, qui, ouais. je sais pas s'il est américain ou anglais d'ailleurs.
Et anglais, le très anglais.
Je me suis dit qu'il était anglais.
Et qui est en fait très américain. Enfin bon, bref, il a un accent à couper.
Il y a beaucoup de Shakespeare avec lequel il joue de temps en temps, totalement, ouais. et qui trébuche un peu dans cette scène là, dans la pièce. Et ils ont joué un petit peu trop, je trouve. Mais ça, c'est pas nécessaire, je trouve, dans la pièce.
Bon, vous voulez dire un petit mot de plus, Marie-Louise
Sirache? Non, le mot veiller, je trouve, est le mot qui convient. C'est un moment extrêmement agréable. Voilà, je maintiens que c'est un tout petit peu long quand même.
Allez voir par vous-même cet Heptaméron, d'après l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, mise en scène Benjamin Lazare, création et direction musicale Geoffroy Jourdain. C'est donc jusqu'au 23 février au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, puis 1er et 2 mars à l'Opéra de Reims, 12 et 13 mars au Théâtre de Caen, 18 et 19 mars au Trident, à Cherbourg en Cotentin, 22-23 mars au Théâtre d'Angoulême et du 31 mars au 4 avril au Théâtre de Liège. C'est l'heure du coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon pour le festival Antigel, quel nom humoristique. C'est jusqu'au 23 février à Genève.
À Genève, tout à fait.
Quelle est la particularité de ce festival, mon cher
Jean-Christophe Brianchon ? Particularités, elles sont multiples, mais la particularité première, on va dire, d'origine de ce festival, c'est ce à quoi, malheureusement, en l'occurrence, cette année, je n'ai pas pu assister, donc je vais quand même vous en parler de cette particularité. C'est de proposer des artistes a priori venus d'univers différents, ça peut être un plasticien, un metteur en scène, ou voilà des artistes venus d'univers différents, les inviter à venir créer dans un lieu qui lui-même n'est pas originellement un lieu de théâtre, un lieu qui change chaque année. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une grange, un entrepôt, n'importe quoi, n'importe quel lieu que le festival va pouvoir trouver à investir, ce lieu sera investi par des artistes qui ensemble vont créer in situ une œuvre et vont essayer de faire parler entre eux leur langage. Au-delà de ça, c'est un festival qui propose de nombreuses choses et qui s'inscrit, alors on n'aura peut-être pas le temps d'en parler exactement, mais qui s'inscrit en ce moment beaucoup de choses qui se passent en Suisse, puisqu'il se passe en ce moment beaucoup de choses en Suisse, aussi bien à Genève qu'à Lausanne. Et donc c'est un festival qui, à ce moment-là de l'année, au cœur de l'hiver, donc, propose aux gens de Genève et aux gens du coin de venir voir un nombre assez ahurissant de propositions, avec quand même un grand tropisme pour la musique, en l'occurrence. Donc moi, c'est pas nécessairement ce à quoi j'ai participé, mais j'ai vu, en l'occurrence, entre autres, la nouvelle création de Karim Belkacem, qui proposait une pièce sur les Cam Girls roumaines, donc une pièce assez intéressante dont j'espère qu'elle va tourner, mais qui fera a priori...
Les Cam Girls roumaines, donc des femmes qui se dénudent à la commande...
Des femmes qui se dénudent sur Internet,
effectivement,
sur la demande tarifée de clients qui donnent de l'argent donc pour les voir se dénuder. C'est un témoignage assez réaliste,
documentaire,
tout à fait documentaire, puisque sur scène viennent témoigner donc des Cam Girls venues de Roumanie, qui viennent nous expliquer le pourquoi du comment, leurs origines et ce qui les a amenés à faire ça, et les conditions dans lesquelles ça leur permet de vivre aujourd'hui, qui sont des conditions finalement assez confortables, puisque c'est un domaine qui s'est tout à fait institutionnalisé et qui aujourd'hui n'est certainement pas comme hier aussi difficile qu'il a pu être, bien que ça ne soit pas a priori des conditions nécessairement enviables. Bon, et puis au-delà de ça, il y a d'autres propositions. Il y a eu entre autres un hommage fait à la chorégraphe Noémie Labzesson, qui est décédée en janvier dernier, qui était absolument magnifique. Donc il y a de la danse aussi, il y a beaucoup de choses, beaucoup de créations, beaucoup de créateurs suisses. Donc ce qui nous permet de voir qu'effectivement en Suisse, la création vit quand même de manière assez intéressante. Et à ce même moment de l'année, se passent les Swiss Dance Days, qui tous les deux ans ont lieu dans des endroits différents. Et en ce moment, c'était à Lausanne, donc ça permet par exemple de faire deux en un, d'aller voir ça et d'aller voir aussi les chorégraphes suisses nous montrer leur talent et nous permettre donc de découvrir qu'en ce moment en Suisse se passe sur le plan du spectacle vivant beaucoup de choses.
Et on trouvera bien sûr un lien vers le site du festival Antigel et sa programmation sur le site franceculture.fr à la page de la dispute, grâce à Sarah Dion qui s'occupe très bien de cette page. Voilà pour votre coup de cœur, Jean-Christophe.
France Culture. La dispute.
Le dernier spectacle à notre affiche ce soir, c'est Trans, Messe, Enya, Trans et Au-delà. C'est un spectacle de Didier Ruiz qui est actuellement à l'affiche du Théâtre de la Bastille, puis en tournée. Enfin, il était à l'affiche du Théâtre de la Bastille jusqu'à cette fin de semaine, puis il est en tournée maintenant. Il a été créé au Festival d'Avignon, un plateau nu, des rideaux blancs en fond de scène, et puis 7 personnes qui vont venir raconter leur transition sexuelle. Didier Ruiz qui poursuit ici un travail consistant à donner la parole et à faire entendre sur les plateaux des récits qui sont souvent les récits manquants ou des paroles qui sont souvent empêchées.
Tens algo? Tens algun dubte? Alguna por? Jo ja em vaig començar a emocionar. I li vaig dir que sí, que em passava algo. Sentia que el meu cos no era el meu, no anava amb mi, el meu cos. Però que també m'agradaven els nois. La meva mare em va mirar i em va dir que això ja ho sabia. Ella m'havia parit. Llavors li vaig dir que no és només això, és que volia ser una dona, em sentia una dona. Llavors la meva mare em va abraçar fort i em va dir que quan fos major d'edat ella estaria allà per apoyar-me perquè jo pogués ser feliç.
Bon, je ne vous demanderai pas, Marie-Louise Sirage, de traduire cet extrait qui était en catalan, en l'occurrence, c'est la plupart du temps. Cette langue qu'on entend, ce qui est normal, parce que Didier Ruiz a été cherché du côté de Barcelone. Alors, participants, acteurs, quel mot
les
est
acteurs
pas employé
de leur propre histoire.
Voilà,
les acteurs de leur propre histoire, peut-être c'est le terme. Parce qu'effectivement, ce sont des personnes qu'il a rencontrées à Barcelone, après... Il a auditionné plusieurs dizaines, en tout cas, d'entre eux, et pour en sélectionner 7, en tout cas choisir, 7. Et ensemble, ils ont coupé. Il y a un travail de montage beaucoup à partir de la
de
parole recueillie,
oui.
Du témoignage. Mmh. Beaucoup de il y a du travail de découpage pour que tout ça fasse quand même un spectacle dans les temps impartis. Là, la voix qu'on entendait dans mon souvenir, parce que je l'ai vue à Avignon, je l'ai pas revue, mais il me semble, alors vous me dites si j'ai raison ou pas, que c'est Clara. Cet homme marié de 50 ans
qui
peu importe, d'accord. Alors, parler d'elle
est devenue femme et il est très beau ce personnage là parce qu'il a toujours un sourire incroyable. Ce qu'il a dû vivre en son fort intérieur est assez impressionnant et tous racontent quand même le regard des autres sur eux, sur leur transformation, sur leur désir avant même qu'ils ne commencent à se transformer. Ce sont des gens qui sont allés jusqu'au bout de leur liberté, qui ont décidé d'assumer et leur sexualité, leur genre. C'était la grande question posée, la question du genre, au Festival d'Avignon cet été. Donc effectivement, ce spectacle était totalement en phase avec le sujet. C'est un théâtre, c'est Didier Ruiz, c'est-à-dire que il procède toujours de la sorte. C'est un théâtre documentaire, assez sobre. Les acteurs parlent face public. Cette fois-ci, moi j'en avais vu deux précédemment, un sur la mémoire ouvrière de Saint-Ouen, un autre sur la mémoire des immigrés espagnols à Tremblay en France. Donc il va à chaque fois chercher des sujets un petit peu inattendus. Et là, il y a un décor fait de fleurs, un peu psychédélique, Flower Powers, bon, qui apporte un peu, je sais pas, qu'il faut un petit peu rêver, c'est son côté Mont Olympe, quelque part, un lieu qui n'existe pas, sauf dans l'imaginaire, quelque part entre la terre et le ciel, un peu comme eux, ils sont entre deux, ces acteurs, ces hommes et ces femmes qui prennent la parole.
Jean-Christophe Brianche, en premier regard sur ce Trans,
Pour moi, toute la difficulté de cette pièce tient exactement à la façon dont Marie-Jo vient d'en parler, qui est le fait qu'on ne peut que parler de la beauté de ces gens-là, enfin de la beauté de leurs gestes et de la force de ces gens-là. Puisque finalement, de théâtre, il n'est qu'assez peu question, en fin de compte, sur le plan purement formel, quoi, on va dire. Sur le plan du geste de mise en scène.
Sur une scène qui s'adresse à un public.
Oui, mais alors est-ce que ça fait théâtre ?
Non, mais,
c'est tout un débat.
Mais je suis passionné par ce débat.
En l'occurrence, c'est un débat que Didier Ruiz semble vouloir régler de manière assez rapide, finalement, puisque la scénographie se présente donc comme un demi-cercle, une sorte finalement d'un amphithéâtre, une sorte d'amphithéâtre antique, en fait, sur lequel viendraient défiler ces voix de témoignages de vie. Et donc, par là même, le metteur en scène semble nous dire, de toute façon, ici, vous serez au théâtre, et nulle part ailleurs. Et ensuite, viennent s'afficher ces quelques mots sur le devant de la scène, avant que la pièce ne débute, nous indiquant que les surtitres ne suivront pas nécessairement toujours ce qui sera dit, puisque la pièce se veut ancrée dans une oralité totale. Quoi.
C'est pas ancré les calédales, quoi. Voilà. Il y a la virgule d'un texte immense qu'on voit défiler.
Là, on est censé entendre et lire des choses.
Il peut y avoir des écarts.
Donc, là, on est
ça,
non seulement...
Pas, ça, c'est intéressant,
c'est
ça.
Tout à fait intéressant. Mais on est scénographiquement, réellement, dans une scénographie donc, qui nous dit qu'on est au théâtre, et ensuite, il y a ce geste-là qui nous dit, oui, mais alors faites attention, le théâtre ne fait pas le réel, mais le réel, en revanche, va faire le théâtre devant vous. Donc, c'est partir du principe que finalement, le geste théâtral, la théâtralité, est intrinsèque à n'importe quelle forme de vie et d'expression, et le metteur en scène, a priori, pourrait n'avoir rien à faire là-dedans. C'est un point de vue, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il n'est finalement pas si poussé que ça, et qu'il joue sur une marge qui ne lui permet pas réellement de jouer avec le débat, et qui ne lui permet pas réellement de s'amuser, justement, de ce code qui est le sien, de considérer que le théâtre est ça. Et donc, ça pose problème, puisqu'in fine, on ne verra sur scène que des témoignages qui sont inévitablement utiles, nécessaires et beaux à entendre, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va voir au théâtre ? Est-ce qu'on va voir ça ? Je sais pas. Est-ce que le plateau était nécessaire pour nous dire ça ? Je ne suis pas certain.
Thomas Corlin, votre...
Oui, d'autant que je rebondirai sur tout ce qui vient d'être dit. C'est que d'ailleurs Didier Ruiz dit lui-même ne pas faire un théâtre documentaire, mais un théâtre de l'humanité. Il dit aussi que lui, il met en scène des gens qui sont des innocents, parce que ce ne sont pas des comédiens qui disent un texte. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'être innocent. Je ne sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un monter sur scène qui était innocent. Oui, ce que je trouve un peu dommage avec le spectacle, c'est que finalement le choix donc de tous les individus qu'on entend et puis qui sont tous assez formidables à leur manière, c'est forcément un choix qui travaille sur le regard de l'autre. Et à cette occasion-là, le théâtre devrait être quand même le lieu de vraiment d'élection pour aborder des questions comme ça. Et malheureusement, il en ressort pas grand-chose. Alors d'abord, il y a la question forcément de ce qu'on appelle aujourd'hui l'empowerment, c'est-à-dire donc parler de soi-même. La prise de parole minoritaire est très importante pour justement parler de soi-même avec ses propres outils, puis faire le commentaire de ses conditions de vie. Finalement, pendant toute la première partie de la pièce, on reste dans le domaine, puisqu'on est vraiment dans des témoignages très intimes, dans le domaine un petit peu de l'émotionnel, parce que forcément on relate tout plein d'expériences qui sont de l'ordre de la discrimination, etc., et de la violence, et qui sont un petit peu, je dirais, des passages obligés quand ce type de sujet, les minorités sexuelles, sont abordés dans l'art. La deuxième chose qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'en fin de compte, de mettre bout à bout des témoignages de ce type, ça crée pas beaucoup de dialectique, et finalement, ça nous garde dans une sorte de démarche assez consensuelle, assez démonstrative, et surtout ça ne fait que passer sur beaucoup de points qui sont un tout petit peu évoqués finalement dans la pièce, parce que on parle quand même donc de transidentité. C'est par exemple un choix qui n'est pas seulement celui de changer de sexe, c'est de changer d'identité. Par exemple, il y a aussi la question de, par exemple, quand on quitte son assignation de genre, est-ce qu'on n'a pas le risque d'en retrouver une autre? C'est un petit peu évoqué par un des personnages.
Et
il y a aussi la question
très intéressante d'ailleurs,
qui est assez intéressante. C'est très intéressant, mais malheureusement, on peut pas aller, parce qu'on reste dans le domaine un petit peu du subjectif et puis de la vie de chacun. Et enfin, il y a un problème dans le positionnement d'ordre presque politique. Donc, c'est-à-dire, Didier Ruiz ne se défend de faire un théâtre politique, mais en même temps, il nous cite Jean Genet dans sa note d'intention. Et puis, de toute façon, toute forme de théâtre en devient politique. Et ce postulat, en fin de compte, de dire qu'ils ont accédé à la liberté par un changement de sexe, c'est un petit peu naïf, je trouve, parce que c'est quand même pas mal ça qui est avancé pendant toute la pièce. Et notamment, il y a peu d'ancrage social finalement. On termine quand même cette pièce par, donc on nous annonce sous-titres exactement la profession de chacun.
Le nom, la profession.
Et c'est intéressant. Oui. C'est intéressant, mais malheureusement, c'est pas du tout mis en relief par le reste de la pièce qui au final tombe un petit peu, je trouve.
Non, mais après, c'est vraiment pour le coup un procédé. Il y en a pas tant que ça, mais c'est-à-dire on finit par ce par quoi on commence normalement. C'est-à-dire je m'appelle comme ça, je fais tel métier, donc c'est pour.
Pourquoi pas? Bon,
pourquoi pas? Mais c'est vrai que non, mais ça pose ces questions-là de ce qu'on évoquait avec la fin de l'homme rouge. C'est-à-dire on prend des témoignages, quelqu'un a été recueilli, qui a monté, qui les donne ensuite on les donne à des comédiens qui les font entendre. On a le cas de Milo Rao qui était présent aussi cette même année. Avec Reprise, qui se part d'un fait divers, qui le reconstitue pour partie avec des personnes qui l'ont vécu. On a le cas d'Ahmed Madani, on a parlé plusieurs fois de ce spectacle Flamme, d'aller travailler avec des jeunes gens, groupe de filles, groupe de garçons, enfin il y a eu plusieurs spectacles, et de ensuite faire que ce travail aboutisse à quelque chose de scénique. Et je crois qu'il n'y a pas une bonne réponse. Ce qui est intéressant et qu'on a la chance d'avoir plusieurs possibilités de réponse, c'est vrai que Didier Ruiz a une forme de radicalité que moi j'aime bien. Je disais tout à l'heure pourquoi faut-il habiller absolument les récits de Svetlana Alexeïevitch. Là il n'habille pas grand chose, hein. C'est quand même quelque chose qui nous arrive avec peut-être aussi d'autant plus de force. Mais après, on est dans le cadre du spectacle vivant, ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans quel état on est quand on va voir un spectacle, quel journée on a passé avant, quel type de choses on est en mesure, à ce moment-là, de recevoir. Comment vous voyez toutes ces questions-là, Marie-Josée Sirage, sur la fonction du théâtre
Mais moi, je trouve que le théâtre de Didier Ruiz, il est utile à systématiquement. C'est parce que moi, ces deux précédents spectacles et celui-là, ça démystifie, ça casse le mythe, ça casse les peurs, ça casse la méconnaissance du sujet. Ça nous rapproche. Il y a une proximité, une proximité avec ces hommes et ces femmes qui sont sur le plateau. Ça casse toutes les barrières, tous les tabous. Ça libère. Eux, ils sont libres. Ça libère le spectateur, surtout de toute cette hypocrisie, ces fantasmes, ces doutes. Et c'est là où il est utile. Et c'est d'autant plus utile. Alors, ça me fait penser à l'ancrage social, évidemment. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas des stars, c'est pas Jean-Paul. C'est des gens simples, comme tout un chacun. Ça peut être notre voisin, ça peut être. Et ça, c'est assez beau que, d'ailleurs, ça soit pas dit, qu'on le découvre au fur et à mesure. On peut l'entendre au vu de ce qu'ils racontent de leur vie, de la façon dont ils bougent dans la ville, ils se déplacent, comment ils reçoivent le regard des autres au travail. Donc c'est intéressant. Et c'est là où il est politique, sans l'être. Effectivement, il n'y a pas de banderole.
Ce que vous dites, c'est que ça a une fonction sociale.
Ça a une fonction. Son théâtre. Oui, mais c'est aussi politique.
C'est très noble,
cette capacité de la société d'accepter.
C'est donc politique.
Oui. Absolument.
Et c'est noble.
C'est tout à fait noble. Hein.
On peut toujours effectivement dire là de est-ce qu'un théâtre pédagogique, justement un peu éducatif, est louable, et ça l'est d'ailleurs peut-être. Néanmoins, je le trouve très prudent finalement politiquement. Parce que déjà, il y a ce choix esthétique donc de scénos extrêmement neutres, très sereins d'ailleurs, parce qu'il y a une sérénité vraiment qui émane de ce choix visuel. C'est très reposant, c'est très doux. Mais je me pose un peu la question, parce qu'il y a un geste militant dans cette pièce, forcément, mais j'ai l'impression que c'est un geste plus qui cherche l'approbation, le consensus, plutôt qu'un militant qui irait un petit peu à la contradiction et à la castagne, et qui ne cherche pas à se faire respecter, par exemple. Et c'est ce qui, au final...
Mais Laura, il fait plutôt ça, lui.
Oui, mais
lui, il va chercher là où ça fait mal,
sachant qu'on
là
est quand même
pas simple.
Oui, mais on est à une époque quand même où justement tous les, on va dire la présence queer est quand même très 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 vitale dans le et puis très très riche dans les arts en général. On a quand même des artistes à la Stephen Cohen, à la François Chéniaud, etc., qui, pour le coup, prennent un peu des risques sur ces thématiques-là et ne vont pas juste être déclaratifs, voilà, tels que nous sommes. Mais bon, ça reste ouvert, quoi.
Jean-Christophe Briançon.
Bah, moi, si je dois défendre ce spectacle, c'est justement par son honnêteté et la, on va dire d'une certaine manière, la force tranquille qui est celle de Didier Ruiz, qui lui donne un impact politique absolument indéniable, parce que justement par la sécheresse de cette forme et par la douceur aussi, justement, de l'ambiance qu'il crée, il rend de toute façon le propos ou
il rend le propos tellement réel qu'il devient de toute façon inattaquable. Et dans cette scène, à cet instant-là, par la douceur de la manière dont ces témoignages nous seront donnés, il sera impossible de toute façon de nier la réalité, la liberté de ces gens-là. Et l'impossibilité dans laquelle il met le spectateur de renier et de contredire la réalité de ces témoignages est tout à fait salvatrice et justement fait de cette pièce un geste politique particulièrement fort. Mais qu'est-il du geste théâtral ? Je sais
bon,
pas.
Allez voir par vous-même Transmensalia de Didier Ruiz qui vient d'être joué au Théâtre de la Bastille à Paris. Il sera le 12 février, autant dire demain, au Théâtre de Chevilly-Larue, le 14 février à Fontenay-sous-Bois, du 6 au 10 mars à Barcelone au Théâtre Lioret, 28 mars Théâtre Paul-Éluard de Choisy-le-Roi, 14 mai à la Filature de Mulhouse et 16 mai au Théâtre de l'Agora d'Évry. Et c'est l'heure du jeu de la dispute ce soir, comme tous les soirs. Et heureusement, Sarah Dion nous rejoint, car elle nous porte non seulement la question du jour, mais d'abord, avant cela, nous rappelle la question de l'émission précédente, en l'occurrence vendredi, pour enfin nous donner sa réponse. Et on peut vous dire que chaque soir, des gens gagnent des cadeaux grâce à la dispute. C'était quoi vendredi ?
Vendredi, la question était: quel roman d'Alexandre Pouchkine a été mis en opéra par Tchaïkovski ? Et la réponse est Eugène Onegin.
Ce soir, à gagner des invitations pour l'exposition Chagall, du noir et blanc à la couleur, c'est à voir à l'hôtel de Caumont, à Aix-en-Provence, jusqu'au 24 mars. Quelle est la question, Sarah ?
Dans quelle ville française trouve-t-on un musée intégralement dédié à Chagall ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez nous réécouter, mais aussi nous podcaster. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Clémentine Goldsall, Pascaline Podevin et Olivier Lam. Sur nos platines, When Will the Flies in Deauville Drop, du Ville Juif Underground, Darlene, d'Hubert Lenoir, Live in London de Mavis Staples, et un coup de cœur d'Olivier Lam pour I'd Show the Megahertz de Prefab Sprouts.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Nous allons suivre tous ces conseils à la lettre, bien évidemment, pour être là tous les soirs, tout comme Marie Richeux, dans Par les temps qui courent, qui reçoit ce soir les merveilleux Madeleine Noire et Jean-François Auguste. Comme ça, elle va pouvoir parler à nouveau de ce grand spectacle qu'est le Grand Théâtre d'Oklahoma. Avant cela, 20h55, les carnets de la création d'Aude Lavigne, consacrés à Emma Dusson, qui est plasticienne. 20h30, les fictions de France Culture, c'est un nouveau feuilleton. Le premier épisode de Moby Dick, ou le cachalot d'Herman Melville, réalisé par Jean-Mathieu Zand.